J'ai le plaisir d'inviter, d'accueillir Pierre Thomas qui vient de Lyon. Il est professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Alors il est géologue de formation. Géologue, je croyais que tu étais planétologue, mais on m'a dit géologue, donc je m'en tiens là. Travaillant au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. Et donc il a passé son travail, son existence de chercheur à travailler sur la géologie, mais particulièrement la géologie comparée des planètes. C'est vrai que là, depuis que le système solaire a été exploré par différentes sondes, ça date des années 70.
Ouais, 71, Mariner 9, le grand
débat. Voilà, bon, il fera ça mieux que moi. Mais j'ai réalisé, moi qui travaille dans un domaine complètement différent, que la Terre était devenue une planète, et à ce titre, eh bien, elle souffrait de comparaison avec ses consœurs, les autres planètes du système solaire. Donc c'est tout à fait... On assiste là à une autre branche complètement nouvelle et qui est encore en pleine expansion. Dans celle de la compréhension des planètes et donc de la Terre. Parmi ses travaux, il m'a indiqué effectivement des travaux qui portaient particulièrement sur l'étude du sol de Mars. Voilà, mais ce soir, c'est l'eau dans le système solaire. Donc je m'arrête là et je laisse la parole à Pierre Thomas. Merci.
Donc on va parler d'eau. Alors bon, vous êtes tous plus ou moins des astronomes amateurs, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce que c'est que le système solaire. Où est-ce qu'il y a de l'eau dans tout ça? Alors, je ne parlerai pas de l'eau dans le Soleil, parce que je suis géologue et que le Soleil, c'est un peu trop mou. Le géologue, il aime les cailloux. Mais avant, quand même, on va parler un petit peu de galaxies. Bon, c'est une galaxie toute bête. Elle ressemble à notre Voie lactée. Évidemment, on n'a pas de photo de notre Voie lactée parce qu'on est dedans. Et le système solaire est quelque part par là. Alors, si je prends une galaxie, celle-là, tout à fait au hasard, que je la touille bien, que je la mélange, que je récupère à peu près 1 milliard d'atomes, voici, pour à peu près 1 milliard d'atomes, la proportion des différents atomes qu'il y a. Il y en a quand même plus de 900 millions, c'est-à-dire l'immense majorité d'hydrogène. Ensuite, avec un zéro de moins, il y a l'hélium. Avec déjà 3 zéros de moins, il y a l'oxygène. Avec le carbone, l'azote et le néon. Encore un zéro de moins, silicium, magnésium, fer, soufre. Encore un zéro de moins, puis je vais m'arrêter là. Tous les autres éléments, l'iode, le plomb, tout ce que vous voulez, à eux tous, les autres qui ne sont pas marqués là, font 6000. Donc, petite chose, pour faire la Terre, la planète, les cailloux, grosso modo, ce qui sert, c'est l'oxygène, le silicium, le magnésium et le fer. C'est les 4 éléments. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la Terre est un 4/4, avec le noyau, c'est du fer, et tout le reste, c'est des silicates de magnésium, SiOMG. La vie, comme vous savez, c'est l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. L'oxygène sert à la fois pour la vie, et pour la Terre, c'est pour ça qu'elle est en verte, alors que la vie pure, c'est en bleu, et la Terre pure, la vie pure, c'est en jaune, et la Terre pure, c'est en bleu. Donc vous voyez l'abondance des éléments. Alors avec ces éléments-là, vous voyez que si j'enlève les éléments qui sont à l'extrême droite de la classification, et comme tout ce qui est à l'extrême droite, totalement asociaux, etc., donc j'enlève les éléments marrons, les deux atomes les plus réactifs qui restent, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Et comme vous savez, l'eau, c'est H2O, donc c'est d'une banalité évidente de dire que l'eau, c'est la deuxième molécule polyatomique la plus abondante du système solaire, la première étant H2, la deuxième, ça va être H2O, puis viennent après les CO, NH, etc., mais H2O, c'est a priori la deuxième molécule la plus abondante de l'univers. Donc ça, c'est les éléments dont je viens de citer, que j'ai mis plus ou moins dans l'ordre. Avec ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme molécule si la température est suffisamment froide? C'est ça le problème de l'eau dans le Soleil, c'est qu'elle est plus potentielle qu'autre chose, parce qu'à 6000 degrés, l'eau est légèrement dissociée. Mais enfin, évidemment, la première molécule qu'on peut faire, c'est HH, H2O, H2. Puis ensuite, on aura H2O, ça sera en abondance la deuxième molécule. Et ensuite, il y a tout un fouillis de molécules, que j'ai mis molécule numéro 3, CNH3, CO, CH4, HCN, etc., plus les molécules organiques. Ensuite viendront les molécules faites avec du silicate, du magnésium et du fer. Ensuite, les molécules, si on faisait des molécules, les cristaux avec du fer. L'hélium, gaz de l'extrême droite, reste solitaire. Alors ça, c'est les molécules qu'on peut faire. Quand le système solaire s'est fabriqué, ça devait ressembler à peu près à ça. C'est une photo au télescope spatial de la nébuleuse. Les gaz, tout ça était gazeux. Si vous êtes très chaud, tout ça, c'est gazeux, même le fer. Mais quand on refroidit, ça fait des poussières. Et évidemment, près du soleil naissant, il fait plus chaud que loin du soleil naissant. Et toutes ces molécules qui sont comme ça, eh bien, sous quel état elles sont? La pression étant faible, elles ne peuvent pas être liquides, elles peuvent être solides ou gazeuses. Eh bien, évidemment, quand on est loin, il fait très froid. Alors, toutes les molécules H2O, CHON, NH3, etc., fer, silicate, sont sous forme de poussière solide. Il n'y a que l'hydrogène et l'hélium qui sont encore gazeux. Donc, on a des poussières de molécules diverses qui flottent dans de l'hélium et de l'hydrogène. À l'opposé, quand il fait chaud, mettons 1000 degrés, eh bien, il n'y a que les silicates et le fer qui sont sous forme de poussière solide, et ça flotte dans un gaz, fait tout le reste. Tout le reste, c'est H2, hélium, vapeur d'eau, ammoniac et tout ça. Et puis entre les deux, là, eh bien, il fait tiède, et les poussières de silicate peuvent réagir avec ces gaz, par exemple réagir avec l'eau pour faire des silicates hydratés. Ça, c'est les banalités sur l'origine du système solaire. Donc quand le système solaire s'est fait, dans ce schéma-là, on a le futur soleil qui va naître, il commence à rougir, ça chauffe un petit peu. Bien, vous avez un nuage de poussière que j'ai mis en gris à l'interne, c'est des poussières de silicate et de fer. Et puis des poussières que j'ai mis en bleu à l'extérieur, c'est des poussières, il y a toujours du fer, il y a toujours des silicates, mais il y a beaucoup de glace. Alors glace, c'est pas forcément de la glace d'eau pure, hein, c'est de glace d'eau, d'ammoniac et tout ça. Puis ces poussières, que vous savez, se rassemblent pour faire des planétésimaux. Alors les planétésimaux seront surtout silicato-ferreux au centre et surtout glacés en périphérie. Puis ces planétésimaux se rassemblent pour faire des planètes. Alors les planètes seront essentiellement silicato-ferreuses au centre et puis glacées en périphérie. Alors si elles sont assez grosses, en plus d'avoir un cœur solide, elles vont attirer un petit peu l'hydrogène et l'hélium qui ne sont pas partis. Et donc, les grosses planètes vont s'entourer d'un cocon d'hydrogène et d'hélium, là où il ne fait pas trop chaud, là où l'agitation thermique permet aux planètes de les garder. Puis, il y a une phase que les astronomes pourront bien vous décrire, la phase tétorique, qui va faire le ménage, et tous les gaz vont partir. On ne restera plus que des corps solides. Les gaz ne vont rester qu'autour des planètes suffisamment grosses pour en avoir gardé, ben, grosso modo, pour ne pas vous les nommer, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, hein, qui auront un cœur solide, mais un cocon de gaz. Pendant un certain temps, il y a un peu un gymkhana, les planètes déjà faites reçoivent plein d'objets venant de l'extérieur. Il y a plein d'objets de l'intérieur qui vont à l'extérieur, plein d'objets de l'extérieur qui vont à l'intérieur. Et donc la Terre, quelque part là où il y a la flèche bleue, la Lune et tout ça, en reçoivent plein la gueule pour pas un rond. Et le ménage se fait, et à peu près vers 3,8, il y a presque tout tourne à peu près rond. Et on a le système solaire dans son état actuel. Le seul endroit où ça ne s'est pas bien accrété, c'est entre Mars et Jupiter, et au-delà de Neptune, avec la ceinture des astéroïdes et la ceinture de Kuiper. Donc, d'après cette belle histoire, l'eau doit être théoriquement omniprésente à l'extérieur, puisque ça s'est fait avec des poussières qui étaient essentiellement faites d'eau, avec un peu de silicate et de fer. Par contre, à l'intérieur, les poussières étaient surtout faites de silicate et de fer, avec très peu d'eau, voire pas d'eau du tout. Donc, le système solaire, l'eau doit être très rare dans le système solaire interne. Ça, c'est ce que dit la théorie. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est visiter le système solaire pour voir si c'est vrai. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, hein, pour moi, eau, c'est H2O. La glace, c'est de l'eau. La vapeur d'eau, c'est de l'eau. Et le whisky, c'est 50% d'eau aussi. Alors, la seule diapo qui va concerner la Terre spécifiquement, c'est où est-ce qu'il y a de l'eau sur Terre? Alors évidemment, tout le monde pense à l'océan. Je rappelle que la masse de la Terre, c'est 6 10 puissance 24 kilos. L'océan, c'est 10 puissance 21 kilos. Il y a de l'eau dans le manteau, les volcans crachent de la vapeur d'eau. Il y a à peu près autant d'eau à l'intérieur de la Terre qu'un dans l'océan. Dans les glaciers, il y en a 10 puissance 19 kilos, c'est-à-dire déjà 100 fois moins. Donc, grosso modo, il y a 10 puissance 21 kilos d'eau sur et dans la Terre. C'est-à-dire 1 pour 1000 en ordre de grandeur de la Terre. Beaucoup de géographes, poètes et pseudo-écologistes, ce qui est souvent un pléonasme, pseudo-écologistes, souvent, pas toujours quand même, disent l'eau, la terre, c'est la vie, la planète bleue, 1 pour 1000. On dirait l'augmentation de salaire des fonctionnaires, on n'en fera pas compte. L'eau est rare sur Terre. Et c'est normal, on est dans le système solaire interne. Alors, on a une voisine, c'est la Lune. Y a-t-il de l'eau sur la Lune? Alors sur Terre, elle peut rester l'eau. Parce que la température moyenne de 15 degrés, ça fait une agitation thermique, les molécules ont quelques kilomètres par seconde. C'est largement inférieur à la vitesse de libération. Donc les molécules d'oxygène, d'azote, de gaz carbonique, d'eau restent. Par contre, les molécules d'hydrogène et d'hélium, si on en met dans l'atmosphère, ils s'en vont. C'est pour ça qu'acheter des ballons à votre gamin avec de l'hélium, c'est un gâchis prodigieux. parce que le ballon il va finir par crever, l'hélium va s'en aller. Or, l'hélium est un produit extrêmement rare. Alors, si on s'en sert pour faire de la science, pas refroidir un télescope dans l'espace, c'est très bien. Pour amuser votre petit-fils, c'est un peu du gâchis. De mon temps, les ballons étaient décrits de gonfler à l'hydrogène. Alors, évidemment, si on fumait, ça faisait boum à côté. Mais oh, personne n'en est mort. Mais dans quelques siècles, les gens vont mourir parce qu'il n'y aura plus d'hélium pour refroidir les amens médicaux. Alors, pour sauver les cheveux des gamins, on tue les gens de l'ordre 2200 avec l'hélium. Pensez à toutes ces petites choses. L'hélium est très rare. Et si je vous demandais dans quel minerai on trouve de l'hélium pour l'extraire, tandis que l'hélium ne fait aucune propriété chimique, avec quoi il se lie, ben, je pense que beaucoup dans la salle ne sauraient pas d'où vient l'hélium. Pas de l'atmosphère, puisqu'il s'en va. Donc, il vient de la Terre. Il y a des minerais d'hélium. Ça, c'est pour vous laisser réfléchir toute la nuit. Alors, sur la Lune, la température étant de 150 degrés pendant la journée, la vitesse de libération étant beaucoup plus faible que sur Terre, si on met de l'eau, elle s'en va. Il ne peut pas y avoir d'eau sur Terre. Sur la Lune, donc, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. D'ailleurs, on y est allé voir, c'est vraiment assez désertique. Alors, il n'y a pas d'eau sur la Lune, sauf dans les endroits qui seraient noirs tout le temps. Tintin, dans le temps, a mis de l'eau dans une grotte. Il a fait une abominable erreur, parce qu'il pensait que dans une grotte, à la nuit, il faisait la température nocturne de la Lune, c'est-à-dire moins 150, ce qui n'est pas vrai. Dans une grotte, la température est égale à la moyenne jour-nuit-été-hiver, c'est-à-dire plus 120, moins 150 sur 2, ça fait à peu près moins 30. Et à moins 30, si on met de la glace dans le vide, elle se sublime assez vite. Par contre, s'il y a des endroits à moins 200, la vitesse de sublimation est extrêmement lente, et si quelqu'un met de l'eau dans des endroits qui sont dans l'obscurité permanente, l'eau va y rester. Alors, l'obscurité permanente, elle règne dans les cratères qui sont au pôle. L'axe de rotation de la Lune est à peu près perpendiculaire à l'écliptique, donc les rayons du Soleil arrivent tangentiellement au pôle. Les cratères sont noirs en permanence. Y a-t-il de l'eau, de la glace, dans ces trous noirs? Mais comment boire dans ces trous noirs? Alors d'abord, s'il y a de l'eau, d'où elle viendrait? Eh bien, la Terre, même aujourd'hui, la Terre et la Lune, reçoivent des objets qui viennent d'assez loin de l'extérieur. Distance intermédiaire, c'est les astéroïdes, ça s'appelle les météorites, et beaucoup plus loin, les comètes. Comètes, c'est 70 à 80% d'eau. Les météorites, ça va de 0 à 10% d'eau. Et donc, si une météorite, une comète tombe sur la Lune, si c'est dans la journée, bon, ça va. Si c'est la nuit, la chaleur va vaporiser l'eau, mais comme il fait moins 150, une partie va condenser en givre, et autour de l'endroit de l'impact, si ça tombe la nuit, ça va la recouvrir de givre. Dès que le jour se lève, pfff, le givre se sublime, mais s'il y a du givre qui tombe dans un cratère polaire où c'est la nuit permanente, il va y rester. Et comète après comète, ça pourra faire des grandes couches. Et ça doit être exactement pareil au niveau des cratères polaires de Mercure, qui a les mêmes propriétés orbitales. Alors, comment trouver de la glace dans ces cratères polaires? Eh bien, on utilise une propriété particulière de la Lune, elle n'a ni atmosphère ni champ magnétique. Dans la Terre, vous savez qu'elle reçoit des rayons cosmiques, vous avez une supernova qui explose, ça envoie des particules très énergétiques, mais elles sont... ce qui n'est pas dévié par le champ magnétique est en grande partie arrêté par l'atmosphère. Donc, à la surface du sol, il n'en reste pas beaucoup. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique, donc les rayons cosmiques arrivent. S'ils arrivent sur le sol, ou sur vous quand vous vous promènerez sur la Lune, ça va faire des réactions nucléaires qui vont, entre autres, produire des neutrons. Et le sol de la Lune, la cervelle d'Armstrong, recevant ces rayons cosmiques, réémettait des neutrons. Alors, ces neutrons, ils sont relativement rapides parce qu'il peut y avoir des réactions nucléaires énergétiques. S'il y a de l'eau, l'eau, c'est H2O. Il y a 1 pour 1000 à peu près d'hydrogène qui est du deutérium. Or, le deutérium, ça a des propriétés très spéciales vis-à-vis des neutrons, ça les ralentit. Alors, il y a même la bataille de l'eau lourde, le film bien connu, parce que les méchants Allemands voulaient peut-être utiliser l'eau lourde pour faire leurs bombes, les gentils Anglais ne voulaient pas. Et donc, les gentils Anglais ont fait sauter la méchante usine qui était en Norvège. Toujours est-il que s'il y a de l'eau, les neutrons seront ralentis. Donc, si vous avez des rayonnements cosmiques qui arrivent sur une lune, sur la de la Lune, avec de la glace, on aura des neutrons lents, faiblement énergétiques. S'ils arrivent sur une lune, surface de lune sèche, on aura des neutrons rapides. Donc, il n'y a qu'à mesurer la vitesse des neutrons qui s'échappent de la surface de la Lune pour savoir s'il y a ou s'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est ce qu'a fait une sonde qui s'appelait Lunar Prospector, qui était en orbite polaire autour de la Lune. Donc, il passait deux fois par orbite, au-dessus du pôle Nord, au-dessus du pôle Sud, etc. Et la Lune tournant là-dedans, cette sonde est passée partout. Alors, il y a un bruit de fond. Et systématiquement, quand on passait au-dessus du pôle Nord ou du pôle Sud, on était dans la partie basse du bryton, c'est-à-dire que les neutrons avaient une énergie beaucoup plus faible qu'ailleurs. C'est-à-dire que beaucoup étaient ralentis, donc il doit y avoir de l'eau au pôle Nord et au pôle Sud. Alors cette sonde a même pu faire une cartographie plus détaillée. Alors ça, c'est un montage de photos de la Lune pris, mettons, à tous les, on va dire, la durée du jour lunaire, c'est 27 jours et quelques. Donc toutes les semaines, on a pris une photo, parce qu'évidemment, si on prend une photo du pôle sud de la Lune, il y en a la moitié dans le noir et la moitié dans le jour. Mais si on prend 4 photos à 7 jours d'intervalle et qu'on fait une mosaïque, on a une vision globale du pôle sud de la Lune. Et vous voyez qu'il y a des cratères qui sont toujours dans le noir. C'est ces fameux cratères dont le fond n'est jamais éclairé par le Soleil. Et la sonde a fait une carte de l'énergie des neutrons, qui est transmise avec un code de couleur. Plus c'est bleu, plus il y a de neutrons lents, donc plus il y a a priori d'eau dans les cratères. Et on voit que là où il y a beaucoup de neutrons, hein, c'est là la partie qui est bien noire. Donc ça, c'est un résultat qui date d'il y a un certain temps. Je n'ai pas mis la date, hein, mais ça fait bien 15 ans déjà. Donc il y a de l'eau sur la Lune, dans les cratères polaires. Alors, quand je dis de l'eau, c'est de l'hydrogène. En toute rigueur, ça peut être de la crème chantilly, qui est un corps très riche en hydrogène. Plus raisonnablement, de l'ammoniac, par exemple. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'eau? Parce que l'hydrogène ne veut pas forcément dire eau. Alors, il y a une confirmation qui date de 2009, ça fait que 5 ans. C'est la sonde L-CROSS, qui avait une petite sonde et un troisième étage de fusée. Et ce qui a été fait, c'est que cette sonde, puis le troisième étage d'abord, puis la sonde ensuite, ont été précipités volontairement sur un cratère qui était dans un endroit qui était dans le noir perpétuel. Et pendant que le troisième étage de fusée, qui faisait quelques tonnes, tombait, il y avait la petite sonde qui était derrière, qui a fait des études spectrales du choc. Sachant qu'ensuite, elle s'est écrasée, et que les télescopes terrestres ont essayé de surveiller et l'impact du troisième étage, et l'impact de la sonde. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça, c'est une photo. C'est une zone qui est toujours noire. Eh bien, vous voyez cette petite tache là, floue, là? Eh bien, c'est la bouffée de poussière rejetée par l'impact. Donc, la sonde est tombée dans l'ombre. Ça fait un nuage de poussière. Et quand le nuage de poussière est sorti de l'ombre, parce qu'il était plus haut que le bord du cratère, ce que vous voyez, c'est le nuage de poussière éclairé par l'impact. C'est une photo prise par la sonde qui était juste derrière la troisième étage. Donc vous voyez la taille quand même de ce nuage de poussière, hein, qui fait quelques kilomètres de diamètre. Alors vu la masse et la vitesse de l'impact, il a dû se faire un cratère de 20 mètres de diamètre pour 3 mètres de profondeur. Et le panache qu'on voit, c'est les plus fins des débris qui sont montés donc à quelques kilomètres d'altitude et qui sont sortis de l'ombre. Alors la sonde qui arrivait derrière a fait des études spectrales. La ligne rouge, c'est le spectre normal du sol lunaire à ce coin-là. Et par rapport au spectre normal de la Lune à cet endroit-là, il y a deux grands creux, donc une absorption supplémentaire, qui correspondent aux bandes d'absorption de l'eau. Et les résultats préliminaires, donc dans les jours qu'on suivit avant les publications scientifiques, c'est que la NASA disait, c'est un machin des NASA News, il faut que le panache contienne, panache qui fait quand même quelques kilomètres, hein, une centaine de litres d'eau plus ou moins vaporisée. Alors, quelques temps plus tard, il y a eu un science plus ou moins spécial là-dessus. Alors, je n'ai même pas traduit. Hein. C'est que, grosso modo, l'instrument a vu à peu près 55 kilos, plus ou moins 12, d'eau. Et vu la concentration de poussière et tout ça, a priori, le sol du fond de ces cratères dans le noir contient 5,6, plus ou moins 2,9%, c'est quand même imprécis, d'eau en masse. C'est donc du sol bien gelé. Alors, en plus de l'eau, il y a d'autres composés comme des hydrocarbures, des sulfures, etc., et du dioxyde de carbone. Donc là, il y a la preuve qu'il y a de l'eau sur la Lune. Alors, ce n'est pas énorme, mais les comètes, il y en a très peu, actuellement. Mais c'est sans doute, avec cette façon-là, mais tellement plus intense, que l'eau est arrivée sur Terre il y a 4,4 à 4,3 milliards d'années. Là, on a un pâle témoignage de ce qui est arrivé sur Terre juste après sa formation. Puis quand la formation de la Terre s'est faite, c'était tellement chaud que l'énergie impacte, s'il y avait de l'eau qui est arrivée pendant que la Terre se formait, elle a été vaporisée. Quand on a une surface à 1500 degrés, l'eau s'en va. L'eau qu'il y a sur Terre est arrivée sur une surface déjà froide, donc la Terre était déjà formée. Ça, c'est pour la Lune. Alors, Vénus, Mercure, j'aurais produit la même chose. Il y a de l'eau dans les cratères polaires de Mercure. Mais monsieur ne m'a donné qu'une heure, alors pas de mercure. Ah. Alors, Vénus, c'est entièrement couvert de nuages. Alors, c'est assez frustrant, mais qu'est-ce que c'est que ces nuages? Eh bien, c'est des aérosols, essentiellement d'acide sulfurique, un mélange d'eau et d'acide sulfurique. Donc, c'est pas très sympathique. Vous connaissez tous la pression au sol, 90 atmosphères, température au sol, 450 degrés. Alors, beaucoup de gens qui n'y connaissent rien disent avec une température pareille, il ne peut pas y avoir de vie, c'est vrai. Il y a des gens qui disent avec une pression pareille, il ne peut pas y avoir de vie. Alors, ça, c'est complètement idiot. 90 atmosphères, c'est l'équivalent de 900 mètres d'eau. Et à 900 mètres, il y a plein de poissons. Donc, la pression n'est absolument pas un obstacle, au moins dans des gammes modérées, à la vie. Température plus la pression. Il y a des holothuries qui vivent très bien à 11 km au fond de la fosse des Mariannes. Hein. Donc, voici à quoi ressemble l'atmosphère de Vénus. Là-dedans, y a-t-il de l'eau? Alors, ça a été analysé par différentes sondes. Alors, indirectement, même par une sonde européenne. Il y a encore une sonde européenne qui marche sur Vénus, Vénus Express. Personne ne le sait parce que l'Europe est aussi bonne en communication que moi en danse, maintien et bonne manière, à peu près. Donc, c'est archi nul. Mais il y a des sondes américaines et soviétiques qui ont traversé les atmosphères soviétiques, donc c'est avant 89, et américaines, c'est Pionier et Kelsey, c'est en 78-79. Et donc, elles ont traversé l'atmosphère de Vénus avec un parachute. Et pendant qu'elles descendaient avec son parachute, elles ont analysé comme des folles et elles ont retransmis les résultats. L'atmosphère de Vénus, c'est 95%, 96% de CO2, un peu d'azote, etc. L'eau arrive 0,002%. Alors, si toute cette eau précipitait, ça ferait une couche d'eau liquide de quelques centimètres d'épaisseur. Parce que 0,02% de beaucoup, c'est quand même pas mal. Si vous augmentez mon salaire ou le vôtre de 0,02%, ça ne rendra pas bien compte. Si madame de Bettencourt, elle le verra bien, parce qu'elle pourra encore plus graisser ses joints de porte avec son caviar. Donc, ça fait quand même quelques centimètres d'eau. Sur la Terre, l'océan, réparti en moyenne, ça fait 2700 mètres, 2700 à 3000 mètres d'eau sur Terre. Là, c'est quelques centimètres. Alors, où est-ce qu'est partie cette eau? Parce que Vénus a dû recevoir des comètes et des météorites exactement comme la Terre. Alors, vu la température, qu'elle ne soit pas liquide, c'est normal. Mais elle devrait être vapeur. Or, elle ne l'est pas. Alors, on propose que les photons ultraviolets les complètement dissocient et qu'elles se dissocient en H2 et en O2. Alors, l'hydrogène est parti, c'est normal, il est très léger. Mais où est O2, qui est suffisamment lourd, masse 32, il devrait rester pas mal. Alors, ça, c'est une belle image radar de la surface de Vénus. Ces images radar, évidemment, il n'y a pas de couleur sur une image radar. La NASA met toujours des belles couleurs, elle met les couleurs oranges. Pourquoi est-ce qu'elle met des couleurs oranges? Parce qu'il y a des sondes soviétiques qui se sont posées à la surface de Vénus et qu'on fait des photos assez grossières, hein, c'était dans les années 75 avec la technologie russe, soviétique à l'époque. Toutes ces images ont été retravaillées par des Américains et qu'on nous ont livré ces genres de photos. Et le sol est relativement rouge. Sans doute parce qu'il y a du effet 2O3, de l'oxyde ferrique. Donc une bonne partie de l'oxygène doit être peut-être piégée dans le sol de Vénus, comme ça. Alors pour savoir si c'est quantitativement correct, il faudrait oxyder le sol de Vénus sur une centaine de kilomètres d'épaisseur. Pourquoi pas, hein? Le problème, c'est qu'on n'a jamais fait de forage sur 100 km d'épaisseur pour savoir si c'était oxydé. Donc pour l'instant, il y a quand même un problème. Qualitativement, c'est très bien ce qui est devenu l'oxygène, mais quantitativement, on ne sait absolument pas si ça suffit. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a des belles images de la surface de Vénus. Il y a celle-là. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Alors, c'est des fausses couleurs. Mais regardez la sonde, c'est Venera 13, qui s'est posée en 82, juste à côté d'une belle vallée, à quelques mètres près. Elle tombait dans le trou. Hein. Et c'est assez extraordinaire. Ces photos sont très, très mal connues. Honnêtement, qui avait déjà vu cette super photo de Vénus? 3, 4. La majorité n'avait pas vu. Et vous êtes un public averti. Donc imaginez le public non averti. Enfin, une petite pause si vous avez des questions, parce que j'aime bien m'interrompre de temps en temps. Des questions donc sur la Lune, et puis Vénus, puis Mercure, et puis des généralités. Questions sur ce que j'ai déjà dit?
L'oxygène, c'est lié au carbone? Est-ce qu'il donne le gaz carbonique?
Ah ben, le gaz carbonique, il est arrivé. Une comète, ça contient, 60-70% d'eau, et ça contient du CO et du CO2. Donc, quand on arrive de l'eau, il arrive du gaz carbonique aussi. et dans les proportions, à peu près 5 parts d'eau pour une part de CO2. Sur Terre, c'est à peu près ce qu'on a. Si on transforme en CO2 tous les calcaires du monde, ça fait à peu près 5 parts d'eau plus une part de CO2. Mais ça, c'est l'oxygène qui était libéré par la photolyse de l'eau. Ben, elle ne peut pas oxyder le CO2 qu'il y a déjà. Alors peut-être qu'il y a des perchlorates et tout ça. Sur Mars, par exemple, il y a des perchlorates. Sur Vénus, les sondes qui se sont posées, c'était la technologie des années 80, soviétique, et elles n'ont marché qu'une demi-heure. C'était prévu, hein. Mais vu la température, 400 degrés, l'électronique ne marche pas très bien pendant très longtemps. Donc il faut les blinder, l'isoler thermiquement, puis elles sont mortes au bout d'une petite demi-heure de leur belle mort. Alors il y a une question par là, oui ?
Nous savons que la molécule d'eau, pour se former, a besoin d'énergie. Ma question est d'où vient l'énergie ? D'où venait l'énergie qui a assuré cette fréquence vraiment impressionnante de la molécule d'eau ?
Impressionnante, c'est même pas un pour mille. Hein.
Oui,
bon, un pour mille, c'est pas impressionnant. Et ensuite, H2 et O2 réagissent, c'est exothermique, ça se fait spontanément. Dissocier l'eau, il faut de l'énergie, mais la fabriquer, il n'en faut pas, ça en fournit. Je sais pas, d'où, quand vous prenez de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait un chalumeau, ça produit de l'énergie. Faire de l'eau produit de l'énergie. Ça n'a... C'est une réaction exothermique. Une pile à combustible produit de l'énergie parce qu'elle fait de l'eau. Saturne V produisait à voler parce qu'elle fabriquait de l'eau. Avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Et quelle énergie ça dégageait. Alors Mars. Alors Mars, la température moyenne est de moins 50 degrés. Donc il est évident qu'il n'y aura pas d'eau liquide à cette température-là. Mais il peut y avoir de la glace et de la vapeur. La pression atmosphérique est 0,6% de la pression terrestre, 6 hectopascales. Cette condition, moins 50 degrés, 0,6% de la pression terrestre, c'est à peu près ce qui régnerait à 50 km d'altitude. Alors déjà, sur l'Himalaya, c'est pas folichon, vous imaginez une montagne de 50 km d'altitude. Alors, on sait depuis 1666 qu'il y a des calottes polaires sur Mars. Et à l'époque, quand on voyait du blanc, qui en plus changeait de taille avec les saisons, on ne voyait pas ce que ça pouvait être que de l'eau. La glace carbonique, tout ça n'existait pas en 1666. Et donc, dès 1666, Cassini et Huygens, qui ont profité de la même opposition pour faire à peu près en même temps la même découverte, ont dit il y a de l'eau sous forme de glace sur Mars. Alors, de temps en temps, il y a encore les journalistes qui disent on va enfin savoir s'il y a de l'eau sur Mars. On le sait que depuis le règne de Louis XIV. Alors, bon, c'est du blanc, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'eau. C'est un soviétique qui, pour la première fois, avec des études spectrales vues du sol, a trouvé les raies spectrales de l'eau dans la calotte polaire nord en 1964. Alors, il a publié ça dans une revue assez discrète, russe, mais c'est en 1964 qu'il a publié. Donc, depuis 1666, c'est très probable qu'il y a de l'eau, et depuis 1964, c'est sûr, il y a de l'eau sur Mars. Alors, ces calottes polaires, bon, qu'on voit floues au télescope, eh bien, on les voit évidemment bien mieux quand on tourne autour de Mars. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la calotte polaire sud, c'est trop compliqué, mais la calotte polaire nord, c'est de la glace. Elle fait à peu près 1000 km de diamètre, c'est la calotte d'été, donc la plus petite. L'hiver, tout ça se recouvre de neige carbonique sur un diamètre à peu près 3 fois plus grand et une épaisseur d'à peu près 1 mètre. Donc, 1 mètre de glace carbonique sur un diamètre 3 fois plus grand, ce qui fait une surface à peu près 10 fois plus grande. C'est la calotte d'été. Il y a 1000 km de diamètre, à peu près 3 km d'épaisseur. C'est à peu près le volume de la calotte du Groenland. C'est énorme. Alors, vous avez des falaises, il y a des vallées d'origine bien énigmatique. Vous avez ces falaises, vous avez ces couches de glace plus ou moins pures. Alors, quand elles sont pures, c'est bien blanc. Quand elles sont impures avec des poussières, c'est gris. Et vous avez toute une stratification des couches de glace dans cette calotte. Et là, je ne peux pas résister de vous montrer une photo extraordinaire. Figurez-vous que le 19 février 2008, à 13h05, heure locale, 19 février, c'est calendrier français, terrestre, eh bien, il y a eu une avalanche qui a été surprise en flagrant délit par une sonde en orbite. Et vous avez ici une avalanche qui se déclenche, l'avalanche de neige, et vous avez ici cette avalanche en gros plan. Donc, une avalanche, et cette avalanche est probablement due à la couche de gaz carbonique qui recouvre tout ça l'hiver. C'était le printemps. Donc, le gaz carbonique se sublime. Sublime d'abord en bas parce qu'il fait plus chaud, et la sublimation monte l'altitude. Il va y avoir encore beaucoup de neige en haut, neige carbonique, beaucoup moins en bas. Ça a déstabilisé tout ça, et vous avez cette avalanche assez extraordinaire. Alors, Mars a une atmosphère ténue, mais bien présente. Alors voici une photo, on dirait un bulletin de météo le soir au-dessus de la Bretagne. Non, 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 c'est sur Mars. La vapeur d'eau représente 0,021% de l'atmosphère. Ben, à moins 50 degrés, la pression de vapeur saturante est faible. Si toute l'eau de l'atmosphère précipitait, ça ferait une couche d'eau précipitable de 12 microns. Deux globules rouges l'un sur l'autre. Vénus, c'est quelques centimètres. La Terre, c'est 2700 mètres. Mars, quelques microns. Alors, quand même, ces quelques microns, ils ne précipitent pas partout, ils précipitent là où il fait froid. C'est-à-dire, grosso modo, la nuit et l'hiver. Et c'est des photos qui datent de 76-77, faites par Viking. En l'occurrence, c'est Viking 2. Une photo en plein jour, ben, vous avez le sol de Mars, qui commence à être bien connu, hein, depuis 76-77. Et si, alors la nuit, Mars se recouvre complètement de givre, et si au petit matin, Viking a pu prendre des photos, il avait encore de l'énergie dans ses batteries, les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit, mais s'il gardait de l'énergie dans ses batteries, il pouvait prendre des photos juste quand le soleil se levait, avant que tout ça se sublime. Alors la croix bleue, je l'ai mis pour, c'est le même rocher, là, pour opérer. La nuit, Mars est blanc. Parce que ça se recouvre de givre, et toutes les sondes successives l'ont vu, hein, les robots. La nuit, Mars est blanc, en particulier, de plus en plus blanc quand on monte vers les hautes latitudes. C'est une photo, je trouve, assez extraordinaire de voir ça. Alors, la mesure de la température montre que ça ne peut pas être de la glace carbonique, parce qu'il fait beaucoup plus chaud que le point de condensation de la glace. Mais Viking ne pouvait pas l'analyser. Viking n'a pas pu prouver que c'était de la glace d'eau. Mais ça pouvait être que ça. Alors, de l'eau, il y en a également dans le sol de Mars. Alors, comment on sait qu'il y en a dans le sol? Sur Mars, il tombe assez souvent des petites météorites qui, sur Terre, seraient arrêtées par l'atmosphère, mais qui tombent à la surface. Et par exemple, en juin 2008, ben, il n'y avait rien, là. Puis en août 2008, la sonde qui est reposée au même endroit a vu une petite météorite qui était tombée et qui a fait des petits cratères. Alors ça, c'est des petits cratères de rien du tout, mais des fois, il en tombe des plus gros. Et par exemple, ce cratère-là, qui fait quelques mètres de diamètre, 8 mètres de diamètre pour 1,5 mètre de profondeur, il a été creusé en 2008, parce qu'il n'existait pas en 2007. Et dans les débris, il y a du blanc. Et ce blanc contient les raies spectrales de l'eau. Donc, il y a, et ce blanc disparaît en quelques mois, parce qu'il se sublime quand il est au soleil. Mais il y a de la glace en quantité suffisante, alors on est relativement au nord, déjà 56 degrés de latitude nord, dans le sol, pour que les débris d'un cratère de météorite soient pleins de glace. Alors, avec le coup des neutrons, on peut recommencer à la même étude. Il n'y a pas de champ magnétique, l'atmosphère est très ténue. Et la sonde Mars Odyssée a pu mesurer l'énergie des neutrons réémis par la surface, comme sur la Lune. Et alors les rayons cosmiques pénètrent sur quelques mètres de profondeur, on va dire les deux premiers mètres, et on peut convertir l'énergie des neutrons réémis en pourcentage d'hydrogène. On va supposer que c'est que de l'eau, cet hydrogène. Et ça vous nous donne une carte de la proportion d'eau dans le sol de Mars. Ben, grosso modo, il y en a beaucoup au pôle, c'est normal, il fait froid. Il y en a même plus de là-haut, c'est à la calotte polaire. Mais malgré tout, le sol normal de Mars contient entre 4, 5, 6% d'eau, sous forme de glace, évidemment. Donc il y a vraiment beaucoup d'eau sur Mars. Alors on sait depuis 71-72, avec la mission Mariner 9, que de l'eau liquide a coulé sur Mars. L'eau glace, c'est Louis XIV. Ça, c'est Pompidou. Parce que Mariner 9, ça c'est une photo plus récente, mais Mariner 9 a repéré tout un plein de réseaux de vallées sèches, mais qui indiquant qu'un liquide avait coulé. Alors il y a même des méandres recoupés, les morphologues peuvent s'en donner à cœur joie. Un liquide a coulé. Alors déjà faire couler de l'eau, c'est pas facile. Les gens qui veulent pas que ce soit de l'eau, je sais pas pourquoi, ils voudraient faire que ce soit du gaz carbonique, mais c'est encore plus difficile. Parce que pour faire couler de l'eau, il faut que la pression soit supérieure à la pression du point triple. Mais le point triple du gaz carbonique, il faudrait une pression de 30 atmosphères. Alors, l'eau est vraiment le moins difficile à faire couler sur Mars. Et puis, c'est la deuxième molécule. On va prendre faire couler des choses rares, alors que... Alors, voir si cette eau a pu permettre, dans le temps, quand elle coulait, l'existence d'une chimie prébiotique, voire même le développement d'une vie ancienne et primitive, à l'époque où l'eau coulait, c'est le but de toutes les missions martiennes actuelles, qui ont commencé en 2004 avec les robots. Curiosity, Opportunity, et maintenant... Opportunity Spirit, et maintenant Curiosity. Alors, avant d'aller au sol, on regarde les détails. Vous avez ici plein de rivières qui se jettent dans des trous, avec des vallées. Ces trous, c'était d'anciens lacs, voire d'anciennes mers. Ces rivières se jetant dans un ancien lac, eh bien, ça faisait des deltas. Alors, vous avez la rivière qui arrive par là, qui fait un delta. Par des études spectrales, on peut voir la nature des minéraux qu'il y a dans ce delta. Par exemple, ce truc en fausse couleur, quand c'est vert, c'est qu'il y a de l'argile. De l'argile, ça veut dire beaucoup d'eau pendant longtemps qui a érodé la roche et tout ça, et que cette eau n'était pas trop acide. Donc, on peut vraiment faire plein de géologie à la surface de Mars. Alors, cette eau, quand elle arrivait dans des lacs, on ne voit pas, elle arrivait quelque part par là, il y a un grand trou, elle a déposé des couches. Et voici une vue verticale de ces couches de sédiments. On croira une vue verticale de l'Arizona, avec des couches de grès, et en vue oblique, hein, là, vous voyez, donc des sédiments. Il n'y a vraiment plus que les journalistes pour se demander s'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Alors, là, avec des études spectres, on voit des argiles, des altérates, tout ça. Et il y a les robots qui se sont posés. On va parler de 3 robots sur les 4, Phoenix, Opportunity et Curiosity. Je parle évidemment que des résultats qui concernent l'eau. Alors, Phoenix, c'est un grand inconnu. Il s'est posé en 2008, près du bord de la calotte polaire nord transitoire. Il s'est posé au début de l'été. Et quand l'automne est arrivé, il a été recouvert par la calotte de glace carbonique. Évidemment, il est mort. C'était prévu. Alors, il s'est posé dans ce paysage-là, avec tout un réseau de fractures polygonales qui s'étaient à perte de vue, qu'à l'époque, au moins, on interprétait comme ça. Probablement, ça va changer. La grande démarche du géologue qui travaille sur les planètes, c'est avant de proposer une explosion farfelue, du genre c'est Mars, c'est des traces de pneus, de roues géantes, de martiens, est-ce qu'il y a sur Terre des processus qui font la même chose ? Et si ces processus sont plausibles sur Mars, on va dire que c'est peut-être ça, c'est pas une preuve. Eh bien, ces sols polygonaux, ça existe également, ça c'est sur Mars. Et ça, c'est dans les Alpes avec mes étudiants. Et on voit le même réseau polygonal. Et ça, ça se fait quand vous avez un sol gelé en permanence, c'est le cas sur Mars, c'est le cas à partir de 2500 mètres dans les Alpes, et que la surface de ce sol gelé en permanence dégèle et regèle en surface. Il dégèle l'hiver, l'été, il regèle l'hiver. Ça fait toute une dynamique compliquée, et ça fait ces sols polygonaux qu'on peut voir, par exemple, chez nous en montagne, dans la toundra, là au nord. Alors, permafrost sur Mars, bien sûr, alternance gel et dégel par 68 degrés de latitude nord sur Mars, non. Ça ne dégèle pas sur Mars à cet endroit-là. Alors, j'ai mis 7 points d'interrogation, parce que je ne peux pas quoi vous dire à propos de ces sels polygonaux. Peut-être bien que ça a une autre origine. Ce qu'on va voir découvert par Curiosity montre que peut-être il y a des polygones faits autrement. Pour l'instant, ce n'est pas encore clair. Enfin, rien n'a été publié de définitif là-dessus. Sur ce, donc, Phoenix, il était là, il a fait des gratouillis. Alors, avec sa petite pelle, il gratouillait. Et dans la pelle, il voyait donc du sol rouge et puis une substance blanche. Alors, substance blanche, ça peut être de l'eau, de la glace, ou des sels divers et variés. Alors, s'il gratte, là, il a gratté le 15 juin, là, il a gratté au même endroit, il s'est arrêté, mais il a regardé le 19 juin. Alors, si vous regardez, le 15 juin, ici, il y a 3 petits blocs blancs qui ont disparu le 19 juin. Et si vous regardez ici, il y a un peu moins de blanc le 19 juin que le 15 juin. Le blanc, surtout ces petits trucs-là, se sublime. Si ça se sublime, c'est que c'est de la glace. C'est pas du sel. Donc, mais de la glace de quoi ? Ça peut être de la glace d'eau, mais de la glace de méthane, etc. Elle peut exister de l'eau, douce ou salée. Alors, avec sa petite pelle, toujours, notre robot a mis ça dans des fours, et ils ont fait de l'analyse chimique toute bête, c'est l'analyse de pharmacie. Alors, voilà le truc de NASA News, je vais vous traduire vite fait. Victoire, on a de l'eau. On savait depuis longtemps qu'il y avait de l'eau, alors ils vont chercher des résultats, évidemment, américains. Ils oublient Cassini et Huygens, qui n'étaient pas américains. Mais ils disent, bien sûr, on a de l'eau, on le savait depuis longtemps, mais c'est la première fois que cette eau a été touchée et goûtée, analysée. Et c'est vrai. Alors, cette eau, voici le petit chimiste vert qui analyse l'eau, c'est de la glace d'eau, pH 8-9, c'est basique. Il y a des ions diverses, les plus abondants dans l'ordre sont magnésium, sodium, potassium, chlore et perchlorate. Le sol contient des argiles, des carbonates de calcium. Alors, argile et carbonate de calcium, ça reflète un passé humide. Mais même maintenant, il y a encore de la glace. C'est pas humide, il fait moins 50. Deuxième robot, Opportunity, qui s'est posé en 2004, dans un grand champ de dunes, par hasard, au fond d'un petit cratère. Alors, vraiment par hasard, parce qu'on vise à peu près à 50 km près. Et là, ils sont posés dans un petit cratère qui fait 20 mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur. Ça, c'est les traces qu'il a fait en sortant. Alors, il marche encore, très bien. Et il a fait plus de 10 ans, il a fait plus de 39 km. Quand j'y marche encore, il marche. Je fais tomber mon micro. Je ne sais pas depuis combien de temps il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, ce robot, vis-à-vis de l'eau ? D'abord, sur les bords de son cratère, si on regarde là, il y a à peu près un angle d'une trentaine de degrés, donc un sixième du cratère, où ce n'est pas du sable, c'est de la roche. Et de la roche en couche. Alors ça, pour un géologue, la couche, ça sent l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était posé dans ce coin-là, parce qu'on savait, vu de l'espace, quand je dis ce coin-là, cette région-là, Meridianiplanum, qu'il y avait des montagnes avec des couches. Donc on dit, on va essayer d'en trouver. Par hasard, il s'est posé là, une espèce de petite falaise de 75 cm de haut, il y a des couches. Mais alors des couches de quoi ? Parce que ça peut être des cendres volcaniques, ça peut être des sédiments déposés sous l'eau, ça peut être des sédiments éoliens. Dans la dune du Pilat, il y a des couches de sable. Ce n'est pas de l'eau. Alors là, c'est là que le géologue regarde, le robot s'approche, il voit ses couches, elles sont à peu près horizontales, mais regardez la forme des couches individuelles. Vous avez l'échelle ici, hein, 2 cm. Si on souligne, ça fait des couches un peu sigmoïdes. Et ces couches sigmoïdes, le géologue, il connaît ça très bien. Ça, c'est sur Terre, vous avez mon couteau qui donne l'échelle. Regardez la forme sigmoïde des couches, comme sur Mars. Et ça, le géologue, n'importe quel étudiant de L3, doit savoir que ça, c'est déposé par un courant d'eau, et connaît même le sens du courant, s'il est bon. Donc, ça veut dire que, a priori, ces couches, là, se sont déposées sous de l'eau qui coulait. Donc, on connaît le sens d'écoulement. Un autre endroit dans les parois de ce petit cratère, c'est une petite falaise qui est grande comme ça, il y a des trous, c'est comme si quelqu'un avec un couteau avait donné des coups de couteau verticalement dans une motte de beurre. Ça fait des espèces de trous comme ça, vous voyez, comme ça. Si on regarde en détail, ces trous, certains ont une forme géométrique. Là encore, le géologue, il connaît. Ça porte même un nom, c'est des pseudomorphoses. Ça, c'est parce qu'il y avait des cristaux de sulfate de calcium qui ont dû être dissoutes, mais qui sont déposés. L'équivalent terrestre, des cristaux de gypse dans une marne à côté de Narbonne. Prenez la même chose, enlevez le gypse qui est légèrement soluble, et vous avez ce que vous voyez. Or, le gypse et des choses comme ça, c'est des sels qui se déposent quand vous avez des lacs salés, la mer qui s'évapore et tout ça. Opportunity n'était pas très doué pour faire des analyses chimiques. Il n'avait pas de, il n'était pas bien équipé. Il pouvait analyser la chimie des éléments, tant de pourcent de Mg, tant de pourcent de sodium, etc. Et il ne pouvait analyser la nature des minéraux que si ceux-ci contenaient du fer, parce qu'il avait un spectrum Mohs-Bauer. Donc un sulfate contenant du fer, il pouvait dire quel sulfate c'était. Si c'était un sulfate qui ne contenait pas de fer, il ne pouvait rien dire. Et il a trouvé un sulfate qui contient du fer, la jarosite, dont vous avez écrit la formule. Et ça, c'est mauvais si on recherche une vie primitive, parce que la jarosite indique que cette eau était très acide. Il faut un pH inférieur à 1 pour que la jarosite précipite. Alors la vie peut très bien vivre un pH très acide, il y a des bactéries spécialisées. Mais a priori, les biologistes disent que la vie ne peut pas naître dans un pH très acide. Elle peut évoluer, s'y adapter, mais pas y naître. Donc ça, c'est pas bon. Les eaux martiennes devaient avoir un pH très très bas dans la région de Meridianiplanum. Je vous montre un autre résultat d'Opportunity. On va regarder les roches par là. Et regardez les strates ici très fines, là vous avez l'échelle, elles font comme ça, hop, 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 hop. Strates en forme de petites vaguelettes, des vaguelettes symétriques. Alors là, le géologue, il connaît ça très bien également, les petites vaguelettes symétriques, là toujours mon couteau qui donne l'échelle. Ce machin-là se fait quand vous avez de l'eau avec un clapot, l'eau qui clapote. Il n'y a pas de courant, si vous pêchez, votre bouchon ne dérive pas, mais il monte et il descend. Et la mécanique des fluides nous indique que la longueur d'onde des petites rides est du même ordre de grandeur que l'épaisseur de l'eau qui clapote. Ce qui veut dire que ça s'est déposé dans une mare de quelques centimètres d'épaisseur. Ce n'est pas un lac profond, c'est un marécage, une flaque. Donc, en faisant comme ça, je passe, on peut reconstituer toute la géologie qu'il y avait à cet endroit-là. La troisième mission, Curiosity, qui est arrivée en août 2012, qui marche encore très bien, elle s'est posée là. Sa cible, c'est le rond jaune. Elle s'est posée au point rouge, au milieu de l'ellipse de confiance. Et le but de la mission, c'est le pied de cette grande montagne. Alors voilà cette grande montagne, 5000 mètres de haut, hein, c'est le Mont Blanc. Là, il y a plein de fractures qui ressemblent à des sols polygonaux. C'est toujours pareil, il y en a trop pour que ça soit du gel et du dégel, et on ne sait pas trop ce que c'est que ces fentes. Et le but, c'est ça. Il n'y est pas encore arrivé, parce que tout le noir que vous avez, c'est un cordon de dune. Et comme il ne veut pas s'enliser, il fait tout le tour du cordon de dune pour arriver là. Alors si on zoome à cet endroit-là, regardez ce que c'est. Un festival de strates. Un orgasme géologique. Donc c'est son but. Mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais avant d'arriver là, d'ici 6 mois, 1 an, s'il marche bien, il a quand même fait de la géologie, alors il voit des choses. Regardez-moi ce festival de couches, etc. Je vous résume simplement 2 résultats. Voici des couches. Si on zoome, il y a plein. Et là, il y a un galet bien rond. Et là, il y en a plein d'autres. Si on regarde la roche, enfin, c'est du galet consolidé. On est sur une plage de galets consolidés. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est Mars. À cet endroit-là, il y avait un torrent qui coulait. Ce n'était pas un petit filet d'eau, c'était un torrent qui coulait et qui transportait des galets quand même assez gros, hein, 3-4 cm, c'est des galets comme ça. Il faut quand même un certain courant d'eau pour transporter un galet comme ça. Alors, c'est normal, il s'est posé là. Regardez, là, vous avez un lit de rivière asséché qui arrive. Et on est ici sur un delta fossile, évidemment, un ancien cône de déjection. Donc, de l'eau a coulé dans un espèce de lac qui devait être là dans le temps. C'est un résultat intéressant, mais ce n'est pas le résultat principal. Le résultat principal, on l'attend en explorant cette région. L'échelle, ça fait 150 km. Alors, il a une foreuse pour faire des petits forages. Alors là, il va faire un petit forage ici. Alors, c'est le trou, c'est un forage, une perceuse à percussion. Il peut faire un trou de 6 cm de long pour 1,5 cm de large. Moi, quand je fais une perceuse à percussion dans mon mur, ça vibre, ça casse tout. Ça m'inquiète, une foreuse à percussion sur un machin automatique. Enfin bon, voilà, il a déjà fait un trou, 2 trous, et il va faire un trou. Il est en train de faire le 3e. Et ce qu'il fait, c'est qu'ensuite, il ramasse la poussière autour du trou, il analyse avec plein de trucs, il a un spectre de masse, un chromato en phase gazeuse et tout ça. Alors, je vous donne simplement les résultats de ces analyses. Je traduis tout ça. Toutes ces roches ont été déposées par de l'eau courante dans un ancien lac. Elles sont déposées dans de l'eau peu salée avec un pH neutre. Grande différence par rapport au site de tout à l'heure. Avec coexistence de micro-environnements oxydés et réduits. Alors, cet ancien environnement tel qu'on le voit serait aujourd'hui tout à fait habitable par des bactéries. pH neutre, eau pas trop salée. L'ancien environnement d'opportunité, ce serait des bactéries très spécialisées. Ce pH neutre est très favorable à une chimie prébiotique. Alors, à cet endroit-là, il n'a pas trouvé de matière organique. Sur ces 2 forages qu'il a fait, mais ils étaient à côté. Là, il en fait un 3e, il a mieux choisi son endroit, un endroit qui est dégagé par l'érosion depuis pas longtemps, donc qui, a priori, est à l'abri de la destruction de la matière organique par les rayons cosmiques. Les résultats vont tomber dans les jours qui viennent. Donc là, la NASA me fait une carte de l'ancien lac. Donc en rouge, c'est ce qu'il a déjà fait. Et puis le vert, c'est le trajet qui est programmé. Et donc, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'il va sortir de cet ancien lac pour atteindre sa cible. Alors, on peut se demander pourquoi il y avait de l'eau liquide dans le temps, il n'y en a plus maintenant. Ben, c'est très simple. Mars retient mal l'atmosphère parce que sa gravité est faible. Donc, Mars fuit, c'est pour ça qu'il a mis une baignoire avec une fuite. Donc, la pression diminue, la température aussi, parce que comme le gaz carbonique s'en va, il y a moins d'effet de serre. Et si l'eau était liquide maintenant, avant, ben maintenant, elle ne l'est plus. Alors, y a-t-il de l'eau plus loin ? Les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, voici un astéroïde, Itokawa. On connaît très bien les astéroïdes, parce que quand il y a 2 astéroïdes qui se rentrent dedans, il y a plein de débris qui partent. Alors, les débris se rassemblent pour refaire un astéroïde néoformé. Regardez cet astéroïde, c'est vraiment un tas de cailloux réagglomérés. Mais il y a des débris qui s'en vont, et qui nous tombent dessus, c'est les météorites. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes. Et si on analyse les météorites, ça contient jusqu'à 10% d'eau. Entre 0 et 10%, ça dépend des types de météorites. On arrive enfin dans le système solaire externe, où là, il doit y avoir beaucoup plus d'eau. Alors, si on analyse la surface des nuages d'une planète, là, c'est Neptune, parce que je trouve que c'est joli, Neptune. C'est... Les journalistes, quand ils parlent de la Terre, ils disent la planète bleue. Ils pourraient au moins dire une des deux planètes bleues. C'est pas la planète bleue. Et si on analyse les gaz à la surface, alors ça, c'est une analyse qui a été faite sur Jupiter, il y a à peu près dans ces gaz, évidemment, une grande majorité d'hydrogène hélium, mais il y a à peu près 0,1% de vapeur d'eau. Donc, il y a de l'eau dans ces planètes. Mais ce qui m'intéresse, moi, comme géologue, c'est pas la planète, c'est les satellites. Ces planètes ont des satellites. Il y en a deux qui sont, vu la densité supérieure à 3, qui sont faits surtout de roches. Mais les autres sont faits essentiellement de glace, et une densité comprend entre 1 et 2. C'est-à-dire que c'est un mélange entre de l'eau, densité 1, et de la roche, densité 3. Alors, je vais en regarder quelques-uns, parce qu'il me reste plus longtemps. Si vous prenez 3 volumes d'eau et 1 volume de roche, ben, ça fait un corps de densité à peu près 1,5. Et on peut estimer les proportions d'eau versus roche en simplement mesurant la densité, ce qui est de l'astronomie de base. Eh bien, il y a, sur les 17 satellites majeurs des planètes géantes, il y en a 15 qui sont faits majoritairement en volume d'eau. Donc, vous voyez, c'est ce que dit la théorie, ça se vérifie. Alors, je vais simplement regarder 2 ou 3 des satellites. Rhea, c'est le prototype des satellites. Voici à quoi doit, ça c'est la moitié de la surface de Rhea, satellite de Saturne, 1500 km de diamètre. Voici à quoi doit ressembler l'intérieur de Rhea, avec du fer et de la roche au milieu, et un énorme manteau de glace. Alors glace d'eau avec un peu d'ammonia, d'hydrocarbure et tout ça. Alors je vais montrer 2 satellites un peu en détail. Un qui a cette structure-là, sauf qu'il est plus petit, fait que 500 km de diamètre. Et puis l'autre, Europe, où la couche d'eau, on y reviendra, ne fait qu'une centaine de kilomètres. Le satellite, la densité est de 3,05. Donc il n'y a presque pas d'eau. Plus que sur Terre. Sur Terre, c'est 3 km. Sur Europe, c'est 100. Mais enfin, là, c'est beaucoup plus. Alors, Encelade, d'abord, 502 km de diamètre. Une géologie très tourmentée, quand vous voyez ça. La surface, les spectres de surface montrent que c'est de la glace. Ça, c'est pour montrer la taille. C'est même plus petit que l'Angleterre, Encelade. C'est vous dire. Eh bien, quand on regarde Encelade, ça c'est un premier survol qui date de février 2005, une activité, qu'est-ce que c'est incroyable, il s'est passé des choses, il y a des crevasses, ça a bougé, une dynamique extraordinaire sur Encelade. C'est au pôle sud que la géologie est la plus tourmentée. Alors on va regarder ce qui se passe au pôle sud, par là. Vous avez des failles, comme ça. On va regarder ce qui se passe là. Alors s'il y en a qui sont géologues, ça vous fait pas penser à une dorsale océanique, ce truc-là ? C'est exactement comme une dorsale océanique, dorsale lente pour les grands spécialistes. Et on a découvert en 2009 que par ces failles, eh ben, il y avait de la vapeur d'eau qui sortait, qui évidemment, quand elle arrive dans le vide spatial, se congèle immédiatement, ça fait des panaches de cristaux de givre. Alors il y a un grand débat, il y a des gens qui appellent ça des geysers, d'autres des volcans. Il y a au Moyen-Âge des gens qui discutaient sur le sexe des anges aussi, modérément intéressant. Ces panaches montent à une altitude colossale. Pour les amateurs d'anneaux, c'est eux qui alimentent l'anneau E de Saturne. Et voici quelle doit être à peu près la structure d'Encelade. N'oubliez pas que ça ne fait que 500 km, donc fer silicate, eau. Et à la base, il y a de l'eau liquide. Et par les fractures, sort de la vapeur. Alors, des survols qu'on a découverts ont été reprogrammés pour que Cassini, qui avait fini la première phase de sa mission, donc il pouvait prendre plus de risques. Il aurait fait le plus gros, maintenant il dit on va prendre des risques. Ben, si on suicide, c'est un peu une mission suicide. On espère ne pas mourir, mais enfin, si on meurt, tant pis. Ils ont décidé de traverser les panaches de vapeur, du cristaux de givre, en mettant en marche tous les instruments qui étaient faits pour analyser la haute atmosphère de Titan. Donc, avec en particulier les spectres de masse et tout ça. Et le résultat, alors donc la sonde est passée comme ça. Et le résultat, c'est que ce qui domine, ça c'est les proportions, c'est évidemment l'eau, mais suivi par des molécules, essentiellement des molécules organiques en C1, C2, C3, C4, C5, C6. Après, on a une limite expérimentale, on ne sait plus. Donc c'est de l'eau avec plein de molécules organiques dedans. Et molécules en C6, le glucose est une molécule en C6. Ça sent un petit peu l'organosynthèse, on va dire. Alors, comment faire un tel volcanisme sur un si petit corps dans une région si froide? Alors, il faut mettre de l'ammoniaque dans l'eau. ou du sel, ça abaisse les points de fusion, ça tombe bien, de l'ammoniac, il y en a. Et il faut démarrer comme pour réchauffer l'eau, et on y arrive. On y arrive une fois qu'on sait qu'il y en a. Au départ, on n'avait pas prévu qu'il y aurait ça. C'est souvent comme ça. Les modélisateurs arrivent à expliquer ce qu'on voit, mais ils n'ont pas assez d'intuition pour prédire assez souvent en planétologie. Si vous connaissez André Brahe, qui dit que le système solaire a beaucoup, beaucoup plus d'imagination que les astronomes. Alors, deuxième satellite et dernier dont je vais parler, Europe. C'est beaucoup plus grand, hein, 3000 km de diamètre, la taille de la Lune. Couleur naturelle, un peu renforcée. Alors, vu la densité, Europe, c'est du fer, du caillou, et une couche d'eau d'à peu près 100 km. Il fait évidemment très froid, moins 150 en plein été, en plein midi. Donc, a priori, cette eau, c'est de la glace. Mais si on regarde la surface, on va faire un zoom plongeant dans Europe. On va s'intéresser à cette région-là. Un zoom plongeant. On arrive à ça. Avouez que ça ressemble. On a envie de dire, eh bien, on a des radeaux de banquises qui dérivent les uns par rapport aux autres. Et puis, entre les radeaux de banquises, il y a une mer qui vient à peine de regeler. C'est une interprétation, entre guillemets, séduisante. Alors, si on fait cette interprétation, c'est très bien, parce que depuis Archimède, on sait que la hauteur d'un iceberg, c'est à peu près un dixième de la hauteur qui émerge et un dixième de la hauteur globale. Par exemple, ici, c'est un dessin théorique, là, c'est une vraie photo. Là, j'ai une banquise qui fait à peu près un mètre d'épaisseur. On va supposer que ces manchots royaux font un mètre de haut. Ça veut dire que cette banquise fait 10 mètres d'épaisseur. C'est une banquise d'hiver, bien sévère. Mais c'est de la mer gelée. Là, ça fait 10 mètres de haut. C'est-à-dire que ça, c'est un iceberg, de la glace de glacier, qui fait 100 mètres d'épaisseur. Donc, sur Terre, c'est le machin. Vous avez le gros iceberg, et là, vous avez la banquise. J'ai même dessiné les manchots. Eh bien, a priori, sur Europe, ça doit être quelque chose comme ça. C'est une hypothèse sympathique. Il n'y a qu'à mesurer la hauteur des falaises. Ça peut se faire avec la méthode de Galilée. On mesure la hauteur de l'ombre, et si connaissant le Soleil, et on voit que les parois font entre 5 à 1000 mètres. Ça veut dire que la banquise fait de 5 à 10 km d'épaisseur. Or, on a un océan de 100 km d'épaisseur. Ça veut dire que la partie émergée représente 90 à 95 km de profondeur. D'eau liquide. Donc toute la question, alors pourquoi il y a de l'eau liquide? Parce qu'il y a un volcanisme sous-marin comme sur Io là-dessous, ça réchauffe la glace, il y a un équilibre thermique entre le refroidissement superficiel, le réchauffement par le bas, et vous avez de l'eau liquide là-dedans. Alors toute la question, évidemment, c'est savoir s'il y a de l'eau là-dedans, de la vie là-dedans. Ce qui serait amusant, c'est que s'il y a de la vie là-dedans, nos plus proches cousins seront les Européens. C'est bien la seule chose, titre de gloire de l'Europe. Alors, dernière nouvelle qui date de 12 décembre 2013, c'est une image du télescope spatial qu'on a recalqué sur une image de Galiléo, où ils ont détecté une émission de vapeur d'eau et donc de givre, exactement comme sur Encelade. Donc, vous avez l'eau qui sort. Alors, évidemment, la résolution au télescope spatial n'est pas très bonne, mais il y a donc de l'eau, des panaches volcaniques, ou geysers, hein, toujours le sexe des anges, sur Io, sur Europe. Et voici donc le NASA News du décembre 2013, où l'artiste a dessiné un panache, un geyser qui jaillit. La vraie résolution, le dessin d'artiste. Et ça, c'est Encelade qu'on vient de voir, et ça, c'est Europe. Alors, le volcanisme serait moins intense et moins continu, puisqu'on vient de le découvrir. Mais enfin, il existe, et ça, c'est très intéressant. Sur ce dessin fait par la NASA, j'ai rajouté ces panaches. Il y a de la vapeur d'eau qui gèle, en quelque sorte, qui sort en givre. Alors ça, c'est intéressant, parce que si on veut savoir s'il y a de la vie là-dedans, il aurait fallu faire un trou de 5 à 10 km d'épaisseur. Pas facile. Mais là, il n'y a qu'à se poser juste à côté de la sortie, puis d'attendre que ça sorte. S'il y a des molécules organiques là-dedans, voire des bactéries, on la trouvera dans les dépôts autour des fissures. Donc l'océan sous-glaciaire vient à nous. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc pour savoir s'il y a de la vie ou pas sur Europe et Encelade, la réponse est à portée de mission spatiale. Alors, c'est pas cher, une grosse mission spatiale, ça coûte à peu près 30 milliards d'euros, tout compris, hein, sur 10-15 ans. 3 milliards d'euros. Je vous rappelle que par an, la fraude fiscale et sociale en France, c'est 60 milliards d'euros. Donc, avec un an de fraude, on fait 20 missions spatiales. Alors, j'ai le temps d'aller encore plus loin, 5 minutes, même pas. Alors, plus loin, ça va être très vite, les comètes. Donc là, on dépasse l'orbite de Neptune, et on a des corps qui ne se sont pas accrétés, c'est les comètes, qui ont deux réservoirs principaux, le réservoir dans le plan de l'écliptique, un peu plus loin que Neptune, mais pas considérablement plus loin, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et un nuage dans les trois dimensions de l'espace qui entoure le système solaire d'un véritable cocon. Alors là, ça se chiffre non pas en heures ou en jours-lumière, mais en mois, voire en années-lumière autour du système solaire. Et tous ces machins-là, c'est des blocs de glace qui tournent tranquillement sans s'approcher du Soleil, donc on ne les voit pas. Mais s'il y a un problème de perturbation orbitale et qui s'approche du Soleil, évidemment, la glace au Soleil, ça se sublime, et ça fait la super queue des comètes que tout le monde connaît. Et rien qu'avec des analyses depuis la Terre, on sait qu'il y a plein de molécules organiques et d'eau dans la voie de comète. Ça, c'est Albop. On se rappelle tous d'Albop, qui était quand même une super comète. Hein. C'est de 96 ou 17, je ne sais plus. Avant, il y avait juste quelques... Un peu avant, il y avait Yakutake, mais Albop, moi, je le voyais tous mes jours, pendant au moins 15 jours, au-dessus de la basilique de Fourvière, par la fenêtre de mon séjour. C'était extraordinaire. Alors, une comète, vous savez comment ça marche. Hein. Vous avez le noyau, c'est de la glace sale. Quand c'est loin du Soleil, bon, c'est tranquille. Quand ça s'approche du Soleil, la surface se vaporise. Ça fait des jets de vapeur qui partent, évidemment, perpendiculairement à la surface, donc en direction du Soleil. Et ces jets de vapeur sont défléchis par le vent solaire, c'est à la fois les protons, les électrons et également les photons, et ça fait une queue. Alors, la queue est double parce qu'il y a du plasma et des poussières, mais enfin, une queue qui est à l'opposé du Soleil. Beaucoup de gens s'imaginent que la queue d'une comète, ça indique la direction de la comète. C'est pas vrai du tout, ça indique l'opposé du Soleil. Les Grecs l'avaient déjà remarqué il y a 2500 ans. Alors, à quoi ressemble un noyau de comète? Ben, voici le noyau de la comète Hartley 2, qui a été photographié en novembre 2010. Et vous avez la face au Soleil qui se sublime, et vous avez les jets de vapeur qui sortent. Alors, ça a été, les jets de vapeur ont été analysés. Les résultats ne sont pas tellement plus précis que ceux du sol. Par contre, il y a une sonde qui a ramené des grains de poussière de la comète et qui a pu analyser non pas l'eau, les composés volatiles, mais les composés minéraux qu'on y trouve et les composés organiques. On a même trouvé des acides aminés dans un grain de comète. Voilà, alors je pense que ça va être le moment de s'arrêter. Alors, pour finir, je vais piquer une très grosse colère sur la présentation classique de la notion de zone ou de fenêtre d'habitabilité, qu'en général, on associe à la possibilité de liquide ou de vie. À chaque fois qu'on découvre une planète extrasolaire, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, et qu'il n'y a pas d'actualité intéressante, les informations disent « on a découvert une nouvelle planète », qu'il y a une activité intéressante, que notre président se brouille avec sa copine, on n'en parle pas, mais s'il n'y a rien à dire, on parle de la comète extrasolaire. Et le journaliste, tout de suite, de dire « oui, mais c'est une planète géante, c'est pas intéressant pour la vie », ou bien de toute façon, elle est trop loin du Soleil, de son étoile, ou trop près, donc c'est pas intéressant pour la vie. Alors, il y a deux choses. Il parle planète géante, c'est pas intéressant. Et puis, il y a la notion de fenêtre d'habilité. Il faut juste qu'il soit bien. Alors, d'abord, alors voilà la notion classique de la fenêtre d'habitabilité. Il faut être une bonne distance de son étoile, du Soleil, là, pour que la zone soit habitable, ni trop chaud, ni trop froid. Il faut que l'eau soit liquide en surface. Alors, sur ce dessin-là, il y a plein de choses qui ne vont pas. D'abord, les gens n'ont pas mis de satellite. Une planète géante, ils disent c'est du gaz, il n'y a pas de vie. Mais toutes les planètes géantes, 4 pour 4 des chez nous, ont des satellites. Et il n'y a que les journalistes pour ne pas le savoir. Parce que même les auteurs de science-fiction, hein, dans Avatar, c'est pas sur la planète, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, la planète, c'est sur le satellite Pandora qu'ils ont mis la vie. Donc c'est pas parce qu'une planète géante que le système n'a pas de vie. Autre connerie de ce truc-là, c'est que... Enfin, connerie des journalistes, hein, les astronomes sont un peu... C'est qu'il y a des limites nettes. Alors prenez Vénus et Mars, changez-les de position. Mettez Mars à la place de Vénus, et Vénus à la place de Mars. La très grosse atmosphère de Mars, de Vénus, va faire un effet de serre suffisant sur Mars pour que l'eau soit liquide. Par contre, la très faible effet de serre sur Mars va faire que Mars sera à moins de 100 degrés à la place de Vénus. Donc l'effet de serre peut considérablement moduler cette largeur de bande habitable. Et puis surtout, donc là j'ai modulé, c'est qu'on ne pense que la vie superficielle, parce que pour les journalistes, la vie, c'est les petites fleurs, les petits oiseaux. Il oublie les vies potentielles dans le sous-sol profond ou dans des océans sous-glaciaires. Là-dedans, donc, sur ce même schéma, j'ai mis une limite floue, c'est pour dire que l'effet de serre peut moduler. Là, la limite est floue. Et là, il fait évidemment bien trop froid en surface, c'est vrai. Mais il est tout à fait possible, c'est pas sûr, mais il est tout à fait possible qu'il y ait de la vie en profondeur, dans un sous-sol, ou dans des océans gelés, etc., etc. Par exemple, il peut y avoir de la vie sur Europe, il peut y avoir de la vie sur Encelade. Donc, la notion de zone habitable, c'est vrai si on rajoute en surface. ça devient complètement idiot si on ne rajoute pas en surface. Parce que tout le système solaire, donc au-delà de Vénus, est potentiellement habitable. Alors, pourquoi les astronomes, ils parlent, parce que, contrairement aux journalistes, ils ne sont pas bêtes, c'est qu'ils cherchent la vie qu'ils peuvent détecter. Alors déjà, détecter de la vie en surface, ça ne sera pas facile. Mais alors, détecter sur une exoplanète à 50 années-lumière de la vie dans un satellite du genre Europe, pour l'instant, c'est vraiment en dehors de notre technologie. Alors, ils se contentent de la surface, parce qu'il n'y a que ça qu'ils peuvent trouver. Einstein avait dit, si on perd ses clés la nuit en rentrant chez soi, on va chercher sous le lampadaire. C'est pas parce qu'on les a perdus sous le lampadaire, mais il n'y a que là qu'on peut les trouver, si c'est par hasard, elles sont tombées là. On va pas chercher dans le noir, on voit pas. Donc, faites attention à cette notion de zone habitable, c'est ma grosse colère qui m'énerve. Et j'ai fini, vous voyez, j'ai tenu mon heure. Hein.
Oh, c'était formidable.
Hein, 115 diapos pour vous parler d'eau liquide, de vapeur et de glace. On va s'arrêter, mais il y a plein de questions. Après, on ira boire un coup.
On ira boire un coup, oui. Merci. Formidable. Formidable, je suis sûr.
Une chose que tu as présenté quand tu m'as présenté, c'est que je suis un chercheur, mais avant tout un enseignant.
Oui.
Et donc, on a un cours de 2 heures, et bien le cours, il dure 2 heures. Et au bout de 40 ans de métier... Eh bien, on sait ajuster sa durée. Avez-vous des questions? J'espère qu'il y en a plein.
Alors, oui. Il y a des questions. J'y vais. C'est mon tour maintenant de faire de la gymnastique.
Merci, monsieur. Est-ce qu'on pourrait établir une analogie sur la genèse de formation des sols martiens polygonaux, sur laquelle vous avez dit qu'on s'interrogeait?
Oui.
Et la section des orgues basaltiques, par exemple, type chaussée des géants.
Alors, la forme hexagonale, oui. Quel que soit le mécanisme qui fait de la fracturation, du dessèchement, dégonflement, rétraction, ça va devoir enserrer des surfaces jointives, avec le maximum de surface à l'intérieur des fractures et le minimum de périmètre de surface. C'est le cas d'une abeille qui veut faire des loges pour mettre ses larves. Il pourrait faire des loges carrées. Mais si vous regardez, pour mettre 10 larves avec un certain diamètre, avec des loges carrées, la longueur de périmètre du carré par rapport à la surface sera plus importante que dans l'hexagone. Si vous voulez des loges jointives, en enserrant le maximum de surface avec le minimum de périmètre, c'est l'hexagone, la forme mathématique, quelle que soit la cause de la formation de la fracture. Et dans la nature vivante, minérale, les formes hexagonales abondent. Ce que je ne sais pas, c'est le mécanisme qui a engendré ces fractures, hein, ou ces phénomènes de gonflement, dégonflement et tout ça. Donc la forme hexagonale, c'est normal, mais pourquoi c'est fente? Ça, je ne sais pas.
Vous parliez tout à l'heure donc de l'eau sur Terre, donc l'origine comme étant celle de comètes.
C'est très à la mode actuellement, oui, on a des arguments géochimiques.
Voilà. La question, c'est concernant le profil isotopique de l'eau sur Terre, par rapport à celle des comètes qu'on a...
Alors, c'est très intéressant, ça. On ne connaît pas beaucoup d'analyses isotopiques des comètes, parce que soit il faut les analyser in situ, il n'y en a pas beaucoup,
Je crois qu'il y en a une.
Hein. Il y en a une. Soit il faut qu'elle soit suffisamment lumineuse pour qu'on puisse le faire spectralement depuis la Terre. Alors, il y a Albop, il y a Koutaké, Allais, il y en a 5 ou 6. Alors, ce qu'on peut analyser directement, c'est l'eau des météorites. Alors, il y a une classe de météorites qu'on appelle les chondrites carbonées, qui ont de l'eau. Et l'eau de l'océan est différente de l'eau du Soleil ou de Jupiter, mais égale à celle des chondrites carbonées. Alors, jusqu'à il y a 2 ans. Et différente des 6 comètes qu'on connaissait. Tu aurais dit, ben, l'eau, c'est pas les comètes, c'est les chondrites carbonées. Et puis, il y a en 2000, je sais plus combien, là, on a analysé Hartley 2. Et l'eau de la comète Hartley 2, donc c'est 2010, est différente de celle des chondrites carbonées et identique à celle de l'océan. Donc il y a deux, au moins, vis-à-vis des isotopes de l'hydrogène, de l'oxygène, tout ça, 2 populations de comètes. Alors il y a des gens qui disent ben, c'est Oort ou c'est Kuiper. Et par hasard, les 6 premières comètes qu'on avait analysées étaient une population, et la 7e qu'on a analysée était une 2e population. Alors, l'eau... Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se demandent, disent les chondrites carbonées, c'est peut-être des noyaux de comètes complètement dévolatilisés.
D'accord. Et par rapport à Mars, est-ce qu'il y a un profil isotopique de
Alors, les isotopes de Mars, alors là, vous me posez une colle. Je crois qu'ils ne sont pas très différents de la Terre, mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a un fractionnement, après, dont on tient compte sur la Terre parce qu'il y a un échappement. Et donc l'hydrogène léger part plus vite que l'hydrogène lourd. Donc il faut tenir compte de cet échappement. Et vous dire comme ça, sans avoir révisé la valeur isotopique de Mars, là non. Mais je pourrais vous le dire, j'ai un tas de livres où c'est écrit. Ce n'est pas un secret. Le rapport D sur H est mesuré sans problème par Curiosity, par exemple.
Là-haut. Oui, mais je peux ? Oui. J'ai une petite question. J'avais lu que la quantité d'eau sur Terre est bien inférieure à celle qu'on s'attendrait, en tenant compte des bombardements de comètes, etc. Il y a une partie de l'eau qui a disparu.
Il y a une grande partie de l'eau qui a disparu. D'abord, il y en a à peu près autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais quand je dis à peu près autant, c'est un ordre de grandeur. Vous me direz qu'il y en a 10 fois plus dans le manteau que dans l'océan, je ne serais pas choqué. 1000 fois plus, peut-être choqué, mais 10 fois plus, non. C'est extrêmement difficile d'estimer la quantité d'eau qu'il y a dans le manteau. On sait qu'il y en a, mais ce n'est pas facile à estimer. Ensuite, cette eau. Alors, quand la Terre s'est formée, c'est par accumulation de météorites diverses et variées. A priori, c'était des météorites qui étaient dans le système solaire interne, donc pauvres en eau. Enfin, on n'a qu'un pour mille d'eau. Météorite à 1 pour 1000 d'eau, c'est une météorite bien sèche. Hein. Mais le problème, c'est quand la Terre s'est faite, elle s'est faite à très haute température à cause d'énergie, et toute l'eau est partie. Ensuite, il y a eu la Lune qui s'est faite par un impact colossal. Et toute l'eau qu'il y avait sur la Terre à l'époque, venue des météorites initiales ou déjà apportée par un bombardement tardif, toute l'eau apportée a disparu lors de l'impact qu'a fait la Lune. Jusqu'à 3,8 milliards d'années, il y a eu, on peut regarder la Lune, Mars, des cratères d'impact colossaux. La mer des pluies, 1100 km de diamètre, ça fait une météorite, enfin un astéroïde de 50 km de diamètre qui est tombé. Un machin comme ça, je crois que 50 km, ça vaporise, je crois, le quart de l'océan terrestre actuel. Mmh. Il est évident que si on vaporise tout ça, il y a une bonne partie de l'eau qui s'échappe. Donc, il y a certainement eu des pertes. Et justement, ces pertes, on essaye de les quantifier, de les comparer les pertes relatives de Vénus, la Terre, Mars et Titan. Justement, en analysant le rapport D sur H, qu'on va supposer le même au départ, sur ces quatre planètes, qui est une hypothèse, et sachant le rapport D sur H actuel, on en déduit ce qui est parti. Et c'est sur Vénus qu'il en est le plus parti, sur Titan qu'il en est le moins parti, et Mars et la Terre, c'est intermédiaire.
Oui. Alors, je voudrais poser une question là, sur la vapeur d'eau. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'eau sous forme liquide, de l'eau sous forme solide, pas de problème. Et par contre, vous avez parlé de vapeur d'eau sur le satellite Europe de Jupiter.
Il y a la vapeur qui sort, mais dès qu'elle arrive dehors, il fait moins 200 degrés, elle fait du givre.
Oui. Alors, vous avez presque répondu à ma question, mais et dans la queue des comètes, alors il y a
la queue des comètes, existe. C'est pas de la vapeur. La vapeur est un gaz invisible.
Oui.
Ce qu'on voit, c'est un aérosol de microcristaux.
Oui. Alors justement, quelles sont les conditions? Alors sur Terre, chacun connaît l'arc-en-ciel, chacun connaît les microgouttelettes sphériques d'eau. Mais alors, dans l'univers, quand on parle de vapeur, de nuages de vapeur, quelles sont les conditions initiales, les conditions nécessaires et suffisantes pour la formation de ces micro-gouttelettes? Parce qu'on comprend bien qu'il y ait des molécules d'eau indépendantes. Alors, on comprend bien qu'il y ait des molécules d'eau indépendantes, H2O, qui se baladent. Mais à partir de quand ont-elles envie de se regrouper de former une micro-gouttelette sphérique?
Non. Cristaux de glace, vu la température, pas de gouttelette.
Oui, mais de toute façon, ça laisse la question intacte. Oui. À partir de quand les molécules ont-elles envie de se regrouper, de former une micro-gouttelette sphérique?
Je vous dis, ça ne forme pas de micro-gouttelette sphérique, ça forme des cristaux de glace qui ne sont pas sphériques, mais qu'on la forme d'un réseau cristallin.
Alors, qu'est-ce qui permet, sur Terre, de le faire? Parce qu'il y a des conditions de pression, il y a des conditions de température, il y a des conditions peut-être d'environnement, d'autres gaz.
Non, c'est essentiellement la pression. Pour qu'on ait de l'eau liquide, il faut que la pression soit supérieure à la pression du point triple, qui de mémoire doit faire, je ne sais plus combien, qui connaît la pression par cœur du point triple de l'eau. Et si on est en dessous, on passe directement du solide à la vapeur. C'est de la sublimation, de la condensation. Donc, il ne faut pas parler de gouttelettes, mais de
cristaux. Dans l'espace, c'est toujours des cristaux.
C'est des cristaux ou de la vapeur. Alors, là, mais pas sur la question.
Ou de la vapeur, c'est-à-dire des molécules indépendantes.
Des molécules indépendantes. Pour que la vapeur se regroupe, il faut une certaine, je dirais, pression, qui sera de toute façon faible, une certaine densité. Et à chaque température correspond un équilibre entre la pression, on va dire, de vapeur saturante. Alors, dans l'école, on apprenait la notion de pression de vapeur saturante à partir d'un liquide, mais il y a la même notion à partir d'un solide. Vous mettez de la, alors, on voit très bien ça chez nous, avec de la glace carbonique, mettez de la glace carbonique sur la table, elle se sublime. Donc, dans le vide,
alors,
en fonction de la...
Alors, elle se sublime en cristaux.
Non, la glace carbonique, c'est des cristaux, elle se sublime en gaz.
En gaz gazeux.
En
gaz formé de molécules indépendantes.
Indépendantes.
Oui, mais...
Et si on prend, par exemple, dans cette pièce, et que je refroidis cette pièce, il y aura, on va supposer qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, j'aurai vers moins 50, moins 60 degrés, précipitation de neige carbonique, parce que je suis en dessous de la température, du point triple du gaz carbonique, donc le gaz carbonique va devenir directement du gaz qui est dans la pièce, à des cristaux de glace, donc il neigera de la glace carbonique, ça arrive tous les hivers sur Mars, au pôle. Et si je continue à refroidir, alors là, la pression est suffisante, il va pleuvoir de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, et de l'azote liquide. Donc ça dépend vraiment de la pression. Et dans l'univers, la pression étant très faible, il n'y a jamais de liquide. Pour qu'il y ait du liquide sur Terre, il faut une pression. Alors pourquoi les molécules se rassemblent ? Ben, s'il y en a beaucoup, par exemple, quand vous avez des panaches de vapeur d'eau qui sortent par une fissure de glace, juste au-dessus, ils arrivent dans le vide, moins 200 degrés, ils gèlent. Parce qu'ils sont avec plein de voisins. S'il n'y en avait que quelques-uns comme ça, donc il y a, alors c'est le phénomène de nucléation, je ne suis pas physicien, hein, mais on va fabriquer des cristaux à partir d'une certaine densité pour qu'ils aient le temps de se rencontrer. Y a-t-il des physiciens dans la salle qui pourraient préciser ? Mais ne parlez pas de gouttelettes, hein, il n'y a pas de gouttelettes d'eau. Ça fait s'imaginer les cristaux, ça doit ressembler à de la neige, c'est joli, mais c'est tout sauf sphérique. Ça va faire des hexagones, si c'est de la glace, très joli.
Quelle est la vraisemblance pour qu'il y ait de la vie sur Europa, à part le clin d'œil que j'ai vu avec le poisson, là? Parce que l'eau, c'est une condition nécessaire,
oui,
mais ça suffit pas.
Ça suffit pas.
Il faut aussi.
Une bonne, excellente question. Alors, j'ai dans mon ordinateur toute une conférence d'à peu près une heure. Sur
on a le temps.
Où peut-il y avoir de la vie dans le système solaire ? Pour qu'il y ait de la vie, il faut de l'eau liquide. Enfin, de la vie telle qu'on l'entend. Hein. La vie exotique, on n'en parle pas. Mais il peut y avoir de la vie au silicium, dans une solution d'ammoniac ou je ne sais pas quoi. Il faut des molécules organiques. Enfin, il faut d'une molécule avec du carbone. Et la vie, par exemple, une plante n'a pas besoin de molécules compliquées parce qu'avec son carbone, elle fait ses molécules organiques. Quand elle a démarré, il fallait des molécules compliquées. Mais une fois qu'elle est là, elle n'a pas besoin de molécules compliquées si on est ce qu'on appelle autotrophe. Nous, on a besoin de molécules compliquées, du beefsteak, de la salade, mais une plante n'a pas besoin de molécules, le CO2 lui suffit. Mais pour que le CO2 lui suffise, il faut que cette plante, ou les bactéries qui font ça, fassent la photosynthèse et de l'énergie. Donc, et de l'énergie noble, pas de la bête chaleur qui est la plus dégradée thermodynamiquement de l'énergie, mais de la bonne énergie noble, par exemple un photon en lumière bleue, hein, c'est la plus efficace, ça c'est bon. Donc, trois conditions, le carbone, l'eau liquide et de l'énergie disponible. Et pour qu'elles naissent, en plus, des molécules compliquées toutes faites. Où y a-t-il de ces trois conditions ? Alors, de l'eau liquide, du carbone, il y en a partout. De l'eau liquide, on a vu, par exemple, Europe Encelade. Mais j'aurais pu en parler également dans la profondeur de Ganymède, de Titan, de Callisto et de Triton. Y a-t-il de l'énergie disponible sous une banquise ? Alors, sur Ganymède, ça doit être à peu près 150 km. Il est évident qu'il n'y a pas de photons solaires qui arrivent là. Mais une chose que les gens ne savent pas, par Eric, tu ne sais pas, c'est qu'il y a deux sources d'énergie pour la vie. Je ne parle pas d'énergie des carnivores, hein, ou les herbivores. Faire avec du gaz carbonique des molécules organiques. Il y a la photosynthèse, que tout le monde connaît. C'est celle dont parle l'éducation nationale. Et il y a celle dont ne parle pas l'éducation nationale. Souvent, c'est bon signe. C'est l'éducation nationale, souvent, elle parle, c'est un négatif. C'est-à-dire, elle parle de ce qui n'est pas important et ne parle pas de ce qui est important. C'est souvent comme ça, hein. Il y a une autre façon de faire des grosses molécules avec du gaz carbonique, c'est de l'énergie chimique. Si vous avez un couple de réactions chimiques, par exemple du fer 2+, et de l'oxygène dans l'atmosphère, vous l'oxydez ce fer 2+, en fer 3+, ça libère de l'énergie, et il y a plein de bactéries qui savent utiliser cette énergie pour prendre du CO2 et faire des molécules complexes. Alors, vous me dites s'il y a de l'oxygène, c'est parce qu'il y a des plantes qui font de la photosynthèse. Mais il y a des réactions chimiques de ce genre-là qui n'ont absolument pas besoin de milieu oxydant. Si vous avez un minéral qui contient du fer de plus, l'olivine par exemple, le pyroxène, le mica noir, l'amphibole, de l'eau et du gaz carbonique, vous avez le fer de plus qui réagit avec l'eau pour former du fer 3+ et de H2, le H2 qui réagit avec le CO2 pour faire du CH4 et de l'eau et de l'énergie. Et sur Terre, il y a des bactéries qui savent très bien utiliser cette énergie-là pour faire leur synthèse, qu'on appelle la chimiolithotrophie. Alors pourquoi je dis que c'est vachement important? Parce qu'on connaît la vie en surface. C'est beau, petits oiseaux, petites fleurs, tout ça. Mais prenez un mètre carré de sol, il y a sur un mètre carré de sol, il y a un kilo de vie à peu près, vous mettez les brins d'herbe, trois vers de terre, alors, en plus il y a un arbre par hasard à cet endroit-là, mais entre deux arbres, il y a un kilo de vie par mètre carré, c'est l'ordre de grandeur. Eh bien la chimiolithotrophie, alors c'est pas une vie exaltante, il n'y a que des bactéries qui font ça, et c'est un métabolisme ralenti, ça va pas vite. Mais il y en a jusqu'à une température d'à peu près 120 degrés. Donc de la subsurface jusqu'à 120 degrés, c'est-à-dire sur 5 km d'épaisseur. Il y en a beaucoup moins qu'en surface, par unité de... Mais comme c'est sur beaucoup plus épais, c'est très difficile à quantifier, mais la majorité des gens pensent qu'il y a plus de cette vie endogène chimiolithotrophe que de la vie de tous les jours, avec les herbivores qui mangent les plantes, qui se nourrissent de soleil et de CO2. La vie dont parle l'éducation nationale et les écologistes, c'est probablement la face émergée de l'iceberg dont nous faisons partie. Et peut-être bien que le gros de la vie, c'est sûr qu'elle existe, et quantitativement, c'est peut-être la vie souterraine profonde qui vit jusqu'à 5-6 km de profondeur. Donc il suffit qu'il y ait de l'eau et des silicates contenant du fer pour avoir de l'énergie sur Terre. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de Ganymède ou de Titan, parce qu'il y a de l'eau liquide en profondeur, mais dessous, la couche d'eau est tellement épaisse que par forte pression, l'eau gèle. Je ne sais pas si vous savez, si on comprime de l'eau liquide, elle gèle. Par exemple, les océans terrestres gèleraient sur leur propre poids à 80 km de profondeur. Donc sur Ganymède, par exemple, il y a l'océan liquide qui est entre 150 et 300 km de profondeur, et dessous, il y a de la glace d'eau de pression qui ne fait pas toucher les silicates. Donc l'eau liquide ne touche pas les silicates. Tandis que sur Encelade Europe, a priori, l'eau liquide touche les silicates, donc il y a une source d'énergie que sur Terre, des bactéries savent utiliser. Donc je serais prêt à vous parier qu'il y a de la vie dans l'océan, dans son propre océan.
Oui, alors donc ça veut dire que chaque discipline a sa matière noire, hein, parce que, oui. Si je comprends bien.
Mais les biologistes le savent, mais bon, ça c'est pas encore arrivé dans l'éducation nationale.
Mais j'ai pas compris là. Quand on comprime l'eau liquide,
ça devient glace.
Pourtant, quand on gèle de l'eau, c'est le volume qui augmente.
Au départ, la pente de Clapeyron est négative, mais si vous allez dans les pressions supérieures à 1 gigapascal, la pente de Clapeyron redevient normale.
L'eau redevient normale.
L'eau est anormale que pour les faibles pressions, disons jusqu'à 1 gigapascal.
Parole au président. Y a-t-il une dernière question?
Oh, pourquoi dernière? Encore une petite, deux petites, trois petites?
Merci. Ce qui m'a frappé dans les deux satellites de Jupiter, qui sont à peu près à distance équivalente...
Lequel? J'en ai parlé de qu'un, en Europe. Quel est l'autre?
Il y en avait un qui faisait, je sais plus, 1000 km, l'autre 1500 km de diamètre.
Non, alors il y a Europe qui fait 3000 km.
Ou 3000.
Et les deux autres, c'était Rhea et Encelade, c'était celui de Saturne.
Ah, voilà. D'accord. Bon. C'est quand même dans le même coin, disons.
Voilà, c'est loin.
C'est loin du Soleil. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a une qui avait tellement plus d'eau que l'autre.
Oui, alors ça, c'est une excellente question.
Attendez, je ne l'ai pas posée encore.
Non, mais je la vois venir.
Alors, moi, je me suis dit, on sait que, en gros, tous les satellites toutes les planètes, les satellites, se sont formés au même moment, oui. Grosso modo. Oui. Mais quand on dit qu'elles se sont formées au même moment, ça veut dire que leur noyau s'est formé au même moment. Mais les grumeaux pouvaient être de taille légèrement différente. Plus c'était gros, plus ça grossissait vite, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, on peut pas dire que les planètes et le même âge, dans la forme observable actuellement.
On n'a jamais mesuré l'âge, mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle l'est pas.
Alors, mon idée, et c'est ça ma question en réalité, c'est si dans le même coin et pour des conditions comparables, il y a une grande disparité dans l'eau présente dans une planète, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'explication vient de l'environnement. C'est-à-dire, quand on dit ça s'est formé à peu près en même temps, c'est à peu près en même temps à un demi-milliard d'années près, ou quelque chose comme ça.
Sans doute beaucoup moins, mais c'est pas grave.
Ou peut-être moins. Mais dans ce delta de différence, au gré des explosions de supernova, l'environnement peut changer considérablement. Et donc ma question est, cette disparité, au lieu de s'expliquer par l'espace, par la taille, etc., est-ce qu'il ne pourrait pas s'expliquer par le temps?
A priori, non. Je vais vous dire pourquoi. Prenons les quatre satellites de Jupiter. Quatre gros. Io, Europe, Ganymède, Callisto. Quand on regarde la surface de ces satellites, d'abord, Io n'a pas d'eau. C'est que des silicates. Que ça. Il y a des volcans à la surface de Io qui crachent des laves à 1300 degrés Celsius. Europe, c'est du silicate avec une couche d'eau d'une centaine de kilomètres. Ganymède, densité 1,6, 7, 8, je ne sais pas, on va dire que c'est les proportions normales. Mais la surface montre des signes d'activité évidents. Il y a des failles, des plis, mais il y a quand même beaucoup de cratères. Et Callisto, qui est le plus loin, ils ont à peu près tous la même taille pour dire, c'est que de l'eau, enfin c'est la proportion qu'il faut, et il n'y a aucune manifestation d'activité, il y a plein de cratères sur la surface de là, il n'y a pas d'activité. Donc Io, planète que de silicate, très très chaude. Europe, c'est actif, il n'y a presque pas d'eau, mais il en reste. Ganymède, il y a beaucoup d'eau, mais il y a une activité. Callisto, il y a beaucoup d'eau, il n'y a jamais eu d'activité. Donc il y a une relation avec la distance à Jupiter. Alors là, on peut rentrer dans votre histoire d'environnement, on ne va pas chercher des supernovas longtemps, mais quand on peut dire que quand le système de Jupiter s'est accrété, Jupiter s'est comprimé, et il a certainement rayonné pas mal de chaleur. Donc autour de lui, il a pu y avoir un gradient de température, comme il y a eu autour du Soleil un gradient de température. Et les satellites internes seraient silicatés, et les satellites externes seraient glacés. Donc c'est un environnement, mais c'est contemporain, mais c'est simplement une distance et une source de chaleur secondaire qui est le Jupiter en formation. Il y a des gens qui ont fait des simulations, des modélisations, ça ne marche pas bien, mais intellectuellement, l'idée est satisfaisante. Et une autre piste, personnellement, c'est celle que je pense la meilleure. Pourquoi il n'y a pas d'eau sur Io? Io est abominablement déformé par les marées de Jupiter. Il y a une source d'énergie, Io, 66 fois plus petit que la Terre, dégage au jour d'aujourd'hui 1,5 fois plus d'énergie qu'elle. Par unité de volume, Io dégage 100 fois plus d'énergie que la Terre. Il y a plein de volcans en activité, la surface de Io par endroit est à 1300 degrés. Pensez bien que avec la gravité faible, c'est comme la Lune, car si vous aviez de l'eau à 1300 degrés, Io a perdu toute son eau parce qu'il est chauffé. Plus vous éloignez de Jupiter, plus les marées sont faibles. Europe, vous avez des marées significatives, j'ai dessiné des volcans. Mais ça n'a pas suffi pour faire partir toute l'eau, presque plus, il ne reste plus que 100 km. Par rapport à Ganymède, c'est trois fois rien. Mais ça chauffe encore, il y a du liquide. Ganymède n'a pas perdu son eau, mais il y a eu une dynamique, c'est pour ça qu'on voit des failles, etc. Parce que c'est resté chaud plus longtemps. Quant à Callisto, tellement loin, il n'a jamais chauffé. Donc on explique plutôt... Alors les deux ne sont pas incompatibles, il a pu y avoir déjà un gradient de température qui a fait qu'Io avait au départ moins d'eau que Callisto, et puis comme Io est beaucoup plus chauffé, le peu qu'il avait est disparu. Alors faire la part des choses n'est pas facile. Mais l'environnement à coup de supernova, non.
Merci. Vous avez parlé de forme hexagonale au sol.
Oui.
Et on s'interroge sur leur formation. Mais ce qu'on voit avec les yeux comme étant hexagonal, est-ce que ce n'est pas sphérique? Vous allez dire que je fais une fixette sur la sphéricité.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas sphérique au niveau précisément de la formation, de la constitution, c'est-à-dire que les échanges thermiques entre les différentes portions du sol et les distances et la propagation par rapport au centre, et le rayon, enfin, je veux dire, la vitesse de propagation par rapport au centre des échanges thermiques, oui, est peut-être toujours constante tout autour. Nous, on voit ça comme hexagonal, mais parce que on regarde avec un mètre. Mais si on regarde ça au niveau des vitesses d'échange thermique, c'est peut-être tout à fait
un cercle. Moi, je vois un hexagone.
Enfin, c'est une suggestion hein, parmi d'autres.
Je vois un hexagone à la surface.
Oui. Non, mais parce que vous vous interrogiez sur la formation. Voilà. Mais c'est peut-être que dans la formation, c'est, je veux dire, le principe entend une unité d'échange de chaleur et une unité de distance tout autour d'un centre.
Mais d'un centre de quoi ?
Alors, ben, déjà, du centre de cet hexagone qu'on observe.
Oui, mais d'abord, on observe un hexagone, justement. Si c'était une sphère, l'intersection d'une sphère avec une surface, on aurait des ronds, plus ou moins, et entre les ronds jointifs, on aurait des choses qui ressemblent à une espèce de carré tordu. Or, on n'a pas ça. Sur Terre, les trucs, le mieux, c'est les orgues basaltiques, mais les sols polygonaux péripolaires, c'est des fractures qui sont verticales, qui sont hexagonales et qui se propagent d'un ou deux mètres dans le sol. Et c'est des fractures verticales. La chaussée des gens, c'est des colonnes. Les sols polygonaux, c'est... Personne n'a trop bien compris comment ça se passe. Ce que les gens pensent, c'est qu'on a un sol très humide, parce qu'il est gelé en permanence en profondeur, ça dégèle l'été, donc c'est de la bouillasse. Quand ça regèle pas de façon homogène. Donc quand ça gèle, ça augmente de volume, donc ça a tendance à gonfler. À côté, ça gèle moins, donc ça gonfle plus tard. Et hiver après hiver, des phénomènes de gonflement et de dégonflement, et ça a tendance à repousser sur les côtés les cailloux et tout ça, et ça va faire, puisque, mettons que vous montez, vous repoussez les cailloux sur les côtés, eh bien, vous allez faire des hexagones, toujours pour la même raison, volume, surface sur périmètre. Je vois pas où intervient la sphère là-dedans. Ça se refroidit par la surface, ça gèle, ça dégèle, si c'est cette explication-là, mais c'est probablement pas ça. Actuellement, les gens pensent que ce qu'on a vu autour de Curiosity, c'est de la rétraction. En plein midi, en plein été, sur Mars, il fait à peu près quasiment 0 degré, si le sol est bien sombre. En pleine nuit, en plein hiver, il fait moins 120. Donc vous avez des phénomènes de contraction thermique terribles, avec dilatation, contraction perpendiculaire à la surface. Et ça, ça peut faire un réseau de fractures, et à force de. Une fois que les fractures sont amorcées de façon hexagonale, à chaque fois. La zone fracturée est fragilisée, le vent érode plus ces zones fragilisées. C'est ce que, sans l'écrire dans des publications scientifiques, les scientifiques de NASA évoquent. Je ne vois pas où est la sphère là-dedans.
On va remercier l'orateur. Merci Pierre Thomas.